CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de Lucier, Meubles André Beaulieu et Mylène Mylène, cabinet médico-légal.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Mesdames, messieurs, bonjour à l'émission aujourd'hui, poussée inflationniste et coût de la vie. Mes invités, Ando Andrianadi, du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, Julie Courchesne, du domaine Coquelicot, Claudine Couture-Trudel, de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre de Sorel, Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, Dominique Gosselin, d'Action Logement, Pierre de Sorel, Gilles-Émile Laflamme, du groupe d'entraide de Sorel-Tracy, Roger Lafrance, de la CEF Montérégie-Est, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel, et si on parvient à le joindre, Jean-Pierre Poulin, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. C'est d'ailleurs avec lui qu'on doit débuter l'émission immédiatement après la pause. Restez là.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parisot devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Le mois de mars, c'est aussi l'arrivée du printemps et qui dit printemps dit changement. Du 24 février au 30 mars, rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour la promotion des électroménagers fiables de Maytag. L'équipe dynamique de Meubles André Beaulieu saura vous accompagner dans le choix de nouveaux électroménagers. Profitez de rabais additionnels allant jusqu'à 300 $ sur la marchandise sélectionnée parce qu'avec Maytag, la fiabilité dure. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier, Meubles André Beaulieu et Mylène Mylène, cabinet médico-légal.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
De retour à la Tribune, Monsieur Poulin, notre fiscaliste de Raymond Chabot Grant Thornton, on n'est pas capable de le joindre immédiatement, alors on va passer à Madame Couture-Trudel, Claudine Couture-Trudel, qui est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Les Québécois connaissent en ce moment le plus haut taux d'inflation depuis 1991. Alors, on s'intéresse au phénomène ce midi à la Tribune avec une dizaine d'invités. Bonjour, Madame Couture-Trudel.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Et vous?
Très bien, merci.
Vous allez bien en dépit de l'inflation?
Écoutez, il faut de la résilience dans le monde des affaires et en général, je pense qu'on en démontre beaucoup, en particulier dans notre communauté de membres là, à la Chambre de commerce, pour être assis.
Bon, parce que l'inflation, elle n'épargne évidemment pas l'industrie et le commerce.
Non, absolument. Du côté de nos membres, vous comprendrez que l'inflation est ressentie sur leurs coûts de production. Alors, autant sur leurs matières premières, leurs intrants, par exemple pour un restaurant, la nourriture, pour une compagnie de transport, le carburant. Et ça, c'est d'une manière directe qui touche les entreprises. Puis, une manière indirecte, c'est bien sûr que les employés, en voyant ces changements-là, sont également préoccupés et réclament des augmentations de salaire qui s'appuient aussi sur un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, pour les entrepreneurs, disons que les coûts sont à la hausse.
Il n'y en aura pas de facile. Vous en parliez, les restaurateurs voient le prix des aliments grimper en flèche. Alors, ou bien ils nous refilent l'entièreté de la facture, ou bien une partie seulement, et à ce moment-là, c'est leur marge bénéficiaire qui diminue. C'est tout un casse-tête.
Mais c'est tout un casse-tête, surtout lorsqu'on sait que les entrepreneurs, avec leur marge bénéficiaire, donnent de l'emploi à nos concitoyens, et puis que lorsqu'on réduit nos marges bénéficiaires, on met à risque la pérennité d'une entreprise. Alors, c'est un moment de, de grande solidarité et de grande fidélisation d'une clientèle qui doit comprendre la réalité dans laquelle sont les commerces et tenter d'être solidaire. Et en même temps, les consommateurs, j'imagine, doivent revoir leurs priorités et puis s'assurer qu'ils dépensent le mieux possible leur revenu.
Oui. Les entreprises manufacturières sont aux prises avec le même problème. Refiler aux clients l'augmentation des matières premières ou en assumer une partie pour offrir des prix plus compétitifs que le compétiteur?
Ben absolument. En fait, l'inflation, ça touche tout le monde et malheureusement, on a très peu de contrôle sur l'inflation individuellement ou au niveau des entreprises. Là, c'est davantage dans les grandes politiques monétaires que puissent jouer. Que peuvent se mettre en place des mesures pour la réduire.
Et le prix du pétrole, et là, c'est pas non plus sans épargner l'industrie et le commerce?
Absolument. En fait, le prix du pétrole impacte grandement tous nos transports et puis impacte le dollar disponible de tous les ménages dans leur gestion du quotidien. Et puis, nous, à la Chambre de commerce, ça donne envie de rappeler aux gens que prioriser les achats locaux peut les aider à diminuer les distances en transport et aussi soutenir justement le commerce local et les commerçants locaux qui emploient leurs concitoyens et puis s'assurer que justement la région soit assez serrée pour faire face à cette situation-là.
Plusieurs organisations comme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et manufacturiers et exportateurs du Québec se sont dit déçus du budget du Québec, estimant qu'il ne répondait pas aux enjeux majeurs qui freinent les PME, comme vous avez cité tantôt, la pénurie de main-d'œuvre, le fardeau fiscal, l'augmentation des coûts. Vous en avez pensé quoi, vous ou à la Chambre de commerce ou à la Fédération des chambres de commerce de ce budget?
Écoutez, vous me prenez un peu de court. Je dois vous avouer qu'à la Chambre de commerce de Sorel, on ne s'est pas beaucoup attardé là, au dernier budget dans nos récentes discussions. Je ne suis pas en mesure de vous donner un point de vue qui serait le reflet de ce que pense notre organisation et les membres du conseil d'administration, mais c'est bien entendu qu'il devrait y avoir des mesures importantes qui soient mises en place pour faire face, entre autres, à la pénurie de main-d'œuvre. On le sent partout. C'est une pression énorme sur tous les employeurs de la région et puis ça affecte déjà beaucoup notre quotidien, par exemple, par la fermeture de restaurants en début de semaine, par la fermeture de commerce à certaines heures, parce qu'il y a un manque d'employés pour prendre la relève. Et puis, ça se reflète également sur beaucoup d'entrepreneurs qui, n'ayant pas les ressources externes disponibles, doivent étirer leur journée de travail. Et puis, quoi que ce soit possible sur une courte période, à plus long terme, on comprend qu'il y a une sorte d'épuisement qui va s'installer et puis qu'il y a certains commerces qui devront fermer leurs portes.
Bien, Madame Couture-Trudel, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, bonjour. Alors, on rejoint chez Raymond Chabot, Grant Thornton, notre fiscaliste Jean-Pierre Poulin. Bonjour, Monsieur Poulin.
Bonjour, Monsieur Rochon.
Alors, les Québécois connaissent en ce moment le plus haut taux d'inflation depuis 1991. C'est à ce phénomène-là là, qu'on s'intéresse ce midi. L'indicateur de l'inflation le plus utilisé, c'est l'indice des prix à la consommation. Et cet indice-là, il fait peur. En hausse de 5,7% sur 12 mois, on n'avait pas vu pareille inflation depuis des décennies, corrigez-moi.
Une trentaine d'années même, oui.
Il faut monter à 1990-1991 pour assister à pareil phénomène.
Oui, c'est bien ça.
Les prix montent quand la demande est plus importante que l'offre, puis descendent quand c'est le contraire, quand l'offre est plus importante que la demande. Est-ce que c'est ça?
C'est un grand principe en économie. Effectivement, si l'offre est plus importante que la demande, bien, les prix vont baisser pour inciter les gens à acheter le produit. Et l'inverse est vrai aussi.
Alors, si on transpose là, dans le très concret, pas beaucoup de maisons à vendre et beaucoup d'acheteurs, ça fait des maisons qui se vendent cher. D'où l'expression « un marché de vendeurs ». Les vendeurs font la passe.
Oui, absolument. Bon. ça, c'est vrai à l'échelle de la province, là, hein? C'est pas juste sur le plateau à Montréal, là.
Ah, bien sûr que non. On lutte comment contre l'inflation, monsieur Poulain?
Là, il y a des grandes stratégies au niveau bancaire, c'est la politique monétaire du Canada. Et donc, on va jouer, c'est pas un jeu, mais on va travailler avec probablement, on va le vivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les taux d'intérêt vont augmenter pour freiner la frénésie. Alors, c'est sûr que là, c'est le premier grand mouvement qui va être fait. Mais là, c'est sûr que si on met plus d'argent dans les poches des consommateurs, c'est pas une stratégie anti-inflation. Là.
OK, facteur, donner 500 $ à tous les Québécois qui produisent une déclaration de revenus puis qui gagnent 100 000 $ et moins, ça n'a pas d'effet sur l'inflation, ça. Et même, est-ce que ça peut avoir un effet négatif?
Moi, je pense pas que l'objectif visé c'était de freiner l'inflation lorsqu'on a mis en place cette mesure-là. C'était vraiment pour venir en aide aux contribuables parce que l'exercice que le ministre des Finances a fait puis les gens qui l'accompagnent, c'est qu'ils sont allés voir c'est quoi sur le panier d'épicerie l'effet de l'inflation, puis c'est quoi les économies d'impôts rattachées à la majoration des différents paliers, là, puis les différents crédits. Puis ils sont arrivés à un montant de 500 $. Alors là, ils ont dit, on va aider les contribuables parce que tous les contribuables, hein, on comprend que on n'est peut-être pas tous affectés de la même façon, mais tous les contribuables vivent avec un taux d'inflation supérieur et tous sont affectés.
OK. Alors, il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de monde qui s'appauvrit au Québec, M. Poulain. Tous ceux dont le salaire ne suit pas l'inflation, on est seulement une méchante gang à pas avoir eu 5 % d'augmentation. Alors, notre pouvoir d'achat a diminué.
Ben, oui, pour ceux qui n'ont pas eu d'augmentation conséquente, c'est sûr qu'avec le taux d'inflation qui augmente à 5 % et si, par exemple, on a des ajustements salariaux à 2 % c'est sûr qu'à la fin de l'année, il va m'en rester moins que l'année précédente. C'est clair, clair.
Qui l'inflation enrichit-elle? L'inflation enrichit quelqu'un?
Écoutez, est-ce que l'inflation enrichit quelqu'un? Tout le monde subit l'inflation. Là, il faut aller voir les secteurs de l'économie qui génèrent. On peut penser évidemment à l'énergie. C'est le secteur de l'énergie avec le pétrole. L'augmentation du prix du pétrole a un effet important sur le taux d'inflation. Est-ce que les grandes compagnies pétrolières s'enrichissent? On pourrait penser que oui, j'ai pas la confirmation de ça, mais si le prix à la pompe augmente, en principe, les grandes pétrolières devraient s'enrichir.
Bon, si l'inflation progresse trop rapidement, avec une hausse des prix plus rapide que celle des salaires, l'État peut décider de relever ses taux d'intérêt. C'est ce que vous me disiez il y a un instant que vous voyez dans votre boule de cristal?
Oui, ben c'est déjà annoncé, hein. On le sait déjà. La Banque du Canada a déjà annoncé qu'elle a augmenté. Il y aura quelques augmentations prévues.
8-9 augmentations?
Pardon?
8-9 augmentations?
Quelques. Je ne suis pas capable de dire comment le gouverneur de la Banque du Canada va réagir, mais on peut penser que actuellement les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc ça, c'est un élément qui favorise la consommation. C'est pas pour rien non plus qu'il y a beaucoup d'acheteurs de maisons neuves. Vous parliez des maisons neuves, pas des maisons neuves, mais des maisons en général. Là. C'est parce que le financement est pas dispendieux. Là.
Exactement. Ben merci beaucoup, M. Trudel, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup.
C'est bien. Merci. Merci.
Roger Lafrance est de l'Association coopérative d'économie familiale de la Montérégie, ce qu'on appelle la CEF. Bonjour, M. Lafrance.
Bonjour, M. Rochon.
Votre mission à la CEF, c'est d'éduquer, d'informer, de sensibiliser la population en matière de finances personnelles, de consommation responsable puis de logement. On fait face comment, M. Lafrance, à l'inflation? Si notre salaire est ajusté au coût de la vie, c'est pas pire, mais sinon, on est dans la chenoute.
Oui, on est face à des décisions qu'on a à prendre. D'ailleurs, c'est déjà changé, hein. Je pense que les gens qui font leur épicerie toutes les semaines ou encore même au niveau de l'essence avec le prix qui a monté, c'est sûr qu'on est face à, on a tendance à faire des choix différents. Moi, je pense que ça nous confronte à nos décisions, nos choix de vie aussi, mais aussi à des décisions qu'on va devoir changer. On n'a pas le choix, là, l'inflation, elle est importante et on doit faire plus avec moins, si on peut dire.
Oui, mais bon, le prix du panier d'épicerie, hausse fulgurante. On fait quoi? On se met au régime, on part à la chasse aux aubaines avec ses coupons rabais, on s'abonne à une cuisine collective, on fait quoi?
Moi, mes solutions sont très simples. Hein. Moi, je garde les choses simples dans la vie. Donc, vous faites une liste d'épicerie à toutes les semaines, vous faites votre liste d'épicerie à partir de vos circulaires. Et à partir de là, vous prévoyez déjà les repas à faire. Donc, et les principes sont simples. Hein. Cuisiner, vous allez sauver énormément. On préconise pas, nous, de faire la tournée là, des spéciaux dans les épiceries parce qu'il faut toujours calculer quand même l'essence que ça prend, mais cuisiner, éviter le gaspillage. Moi, ce que j'appelle là, familièrement, gérer son frigidaire, gérer ses armoires, donc faire une tournée de ça, vérifier est-ce que pour éviter le plus possible le gaspillage. Donc, tous ces petits conseils-là mis ensemble, là, je vous dirais qu'on est déjà en business. Là. Donc,
okay.
C'est déjà, on réduit sa facture d'épicerie.
Bon, on vient de régler ça pour l'épicerie. On règle ça vite, nous autres. On est bon. On paye plus cher, bien plus cher pour l'essence. On fait quoi? On sort le moins possible, on covoiture, on utilise le transport en commun, on se tourne vers les véhicules électriques. On fait quoi?
Bien, un peu tout ça. Moi, je vois, ça nous renvoie à nos choix, parfois, qui ne sont pas toujours très cohérents. Hein. Vous savez, c'est quoi les véhicules qui sont plus vendus au Canada dans la dernière année?
Les VUS.
Et des pick-up. Donc, des camionnettes. Hein, le Ford F-150, c'est le véhicule le plus vendu au Canada.
Aïe, puis il coûte cher en essence, lui.
Ben c'est ça. Fait que vous voyez, je pense qu'il faut revoir un peu nos stratégies, nos choix de consommation. Pour les gens, d'avoir un véhicule qui serait peut-être un petit peu plus petit, ça sera probablement des décisions qu'on va devoir prendre.
OK.
Beaucoup de familles ont deux véhicules dans la porte, donc il va peut-être falloir regarder, est-ce que je peux habiter plus près de mon lieu de travail? Est-ce qu'on peut se débrouiller avec une voiture? Est-ce qu'on peut se débrouiller avec une voiture plus petite? Ben, c'est des choix qu'on va devoir faire, ou encore limiter un petit peu nos déplacements.
Monsieur Lafrance, ça va trop vite, on doit déjà se quitter. Merci beaucoup.
Ben, je vous remercie infiniment.
Merci. On retrouve Dominique Gosselin chez Action Logement Pierre de Sorel. Bonjour, Dominique.
Bonjour, M. Rochon.
Bon, comment va la santé d'abord? Parce que la maladie vous a durement éprouvé, vous, là?
Oui, ça va mieux, là, tranquillement. Là. On reprend un peu d'énergie. Il faut faire attention.
OK. La ville de Sorel-Tracy se démarque pour sa qualité de vie et son coût de la vie avantageux dans deux palmarès en ligne publiés récemment par des entreprises privées. Les loyers, le prix des maisons sont cités comme étant des plus concurrentiel en Montérégie, de même qu'à l'échelle nationale. Ma question, c'est-tu vrai?
Ben, je dirais qu'il y a comme deux catégories là, de gens là, qui recherchent des logements. Fait que oui, on a une catégorie de gens qui vont se permettre des loyers un peu plus élevés entre le 1200 et le 2000. Il y en a beaucoup. Il y en a qui construisent des nouveaux immeubles, puis que la demande est là parce qu'ils sont réservés avant la fin de la construction. Mais en même temps, on a l'autre partie de la population à plus faible revenu qui, eux, ont de la difficulté à se trouver un logement adéquat pour la situation dans laquelle ils sont présentement. Fait que je dirais qu'il y a deux mondes dans ça. Là, c'est...
Ouais. Il est possible de trouver un logement avec une chambre à Sorel-Tracy pour 550 $ par mois ou une maison pour 209 000, une maison avec trois chambres. On lit ça dans les deux palmarès. Là. Ils ont quand même pas inventé ça. Est-ce qu'ils ont oublié de regarder la facture d'électricité du logement à 550 $?
Sûrement, parce que oui, ça cause des surprises là, souvent aux gens qui n'ont pas pris la peine de tout vérifier avant de louer. Puis c'est sûr que, tu sais, oui, il y a quand même certains logements encore disponibles à plus faible coût, mais il faut quand même faire attention que souvent, il y a aussi d'autres problématiques reliées qui font que ces logements-là ne sont pas toujours adéquats. Puis il y a d'autres types de problèmes qui sortent avec le prix du logement aussi. Parce qu'on sait que le logement médian, là, le prix du logement médian dans la région est plus autour de 900 $. Fait quand on s'en va en bas de ça, ben on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça peut cacher là, avant de louer notre logement.
L'Office d'habitation Pierre de Sorel entreprend des démarches de financement pour la construction éventuelle d'un immeuble de 40 à 80 logements destinés aux personnes ayant des revenus modestes. C'est bon, ça, quand même?
Oui, c'est bon. C'est juste pas suffisant encore, mais c'est sûr que c'est un début, là. Mais dans le fond, c'est qu'on est juste en retard sur les échéanciers qui avaient été promis depuis des années. Donc, dans le moment, on devrait avoir au moins 3 à 4 fois plus de logements sociaux disponibles pour les gens de la région. Si on veut que tout le monde ait un logement décent puis rattaché, parce que dans le budget, c'est sûr que la partie logement est toujours la partie la plus grosse qu'on met là, de notre budget par mois. Fait que ouais. Quand on a payé notre logement, souvent il reste plus beaucoup de choses pour beaucoup d'argent pour les autres aspects là, qu'on a à se payer, que ce soit. Puis la plupart du temps, malheureusement, c'est dans l'épicerie, dans la nourriture que les gens vont couper. Parce que aussi c'est plus facile là, d'aller chercher de l'aide en nourriture ou okay. En vêtements.
Fait. Dominique, je dois déjà vous remercier. Santé, bonheur, prospérité.
OK, merci.
Salut, bye. Julie Courchesne est du domaine Coquelicot. Bonjour, Julie.
Bonjour, Sylvain.
Ça n'a pas pris cette poussée inflationniste pour vous convaincre que l'autosuffisance est la clé d'une vie meilleure pour économiser et pour l'environnement. Vous fabriquez tout, vous, votre savon à lessive, votre savon à vaisselle, votre shampoing et quoi encore?
Bien, plein d'autres choses. En fait, moi, le principe, c'est toujours de partir de la base de si j'ai besoin d'aller à l'épicerie pour l'acheter ou si j'ai besoin d'aller à la pharmacie pour l'acheter, je vais essayer de le faire là, par moi-même, là, que ce soit les produits de nettoyage, je fais des conserves, je déshydrate, je fais mon petit jardin, je déshydrate mes fines herbes et tout ça. Là. J'essaye là, au maximum là, de réduire les coûts là, de la vie courante en faisant par moi-même les choses.
Ce qui est formidable, c'est que vous ne gardez pas vos recettes économiques et respectueuses de l'environnement pour vous toute seule. Vous en faites bénéficier qui ça intéresse.
Oui, exactement. Ben c'est ça. Nous, dans le fond, depuis 2009, on travaille là-dedans, on fait des recherches, on essaie, on élabore toutes des choses qui sont simples. Puis, on a décidé de les commercialiser en 2013. Depuis 2013, dans le fond, les gens peuvent acquérir soit par des ateliers qu'on va donner en personne ou des boîtes qu'ils vont recevoir chez eux avec, dans le fond, tout ce qu'il faut pour réaliser un projet X. Exemple, supposons, pour apprendre à faire du savon lessive ou pour apprendre à faire des shampoings, tout ça. Ils ont, dans le fond, la boîte qui est déjà toute prête, toute portionnée, toute expliquée. Et on s'arrange pour que tout soit fait en moins de 30 minutes. Parce qu'on sait là, que les gens... on court tous après le temps. Hein. Fait que c'est sûr que si j'arrive à quelqu'un puis je dis ben écoute, veux-tu faire ton savon lessive, mais ça va te prendre 4 jours. Là, ça se peut que j'aille pas d'adepte. Fait que moi, je m'arrange toujours dans le fond pour que ce soit en bas de 30 minutes, justement pour que les gens aient envie de le faire. Puis tu sais, 30 minutes, là, si on parle mettons du savon lessive, 30 minutes là, souvent c'est pour un an. Fait qu'on met ça de côté, c'est prêt, ça se garde et c'est vraiment pas cher. Fait que moi, depuis des années que je milite pour ça, que j'essaie de faire comprendre aux gens que ça existe, que ça se peut, que c'est réalisable. Puis là, ben, avec le contexte actuel, ben, je me dis que ça peut être une belle solution là, pour beaucoup de personnes là, de se lancer là-dedans. Là.
En tout cas, vous êtes convaincante, hein, Titi. Vous dites que le monde manque de temps. Ben moi, j'en manque. Je dois vous remercier. Il y a le domaine Coquelicot à sa page Facebook et son site web, si on veut en savoir davantage. Hein.
Exactement, oui, au domainecoquelicot.ca.
OK, super. Merci beaucoup, Julie.
Hey, merci à toi. Bonne journée. Bye.
Cette édition de La Tribune sur la poussée inflationniste et le coût de la vie se poursuit après la pause en compagnie d'Ando Andrianadi, Gilles-Émile Laflamme et Sylvain Dupuis. Restez là.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Vous êtes victime d'un accident de la route, du travail, d'une erreur médicale ou d'un problème de relation de travail? Chez Millen Millen Avocats et CRHA, nous pouvons vous aider à obtenir justice ou dédommagement. Spécialisés dans le droit du travail, de la santé et de l'assurance invalidité privée depuis 33 ans, Millen Millen est à votre service avec son équipe multidisciplinaire d'avocats, CRHA, pharmaciennes, infirmières et psychologues. Informez-vous au 450-743-9987 ou en ligne au www.millenmillen.com.
La Tribune, une présentation de Lucier, Meublanderie Beaulieu et Millen Millen, cabinet médico-légal.
à CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Poussée inflationniste et coût de la vie nous occupe ce midi. Je m'entretiens cette fois avec Ando Andrianadi du Centre d'action bénévole du Bas Richelieu. Bonjour Ando.
Bonjour Sylvain.
La clientèle la plus mal prise du CAB ne va pas voir la couleur du 500 $ du gouvernement. Je pense aux personnes qui ne produisent pas de déclaration de revenus.
Oui, tout à fait. Au fond, c'est un bon point, effectivement. Puis, au fond, la moitié, je tenais à mentionner que la moitié des personnes qui viennent à notre centre sont des gens sous l'aide sociale. Donc, on le sait tous au niveau des chèques, c'est pas suffisant. Puis, les 500 $ au fond, comme on le voit, c'est vraiment une solution qui est à court terme, qui vient juste bonifier leurs revenus, mais qui n'aide pas au fond au niveau de l'inflation ou quoi que ce soit.
Alors, qu'un couple là, dont chacun des conjoints gagne 100 000, alors 200 000 au total, reçoivent le même 1 000 500 $ chacun, que le couple qui gagne 50 000 $ au total, vous trouvez que quoi, il y a quelque chose que le gouvernement n'a peut-être pas compris?
Tout à fait, je pense qu'au niveau de, j'appelle ça, je m'excuse du terme, au niveau du bracket salarial ou de la fourchette salariale, effectivement, c'est entre une différence entre 100 000 $ pour chacun des personnes dans le couple qui donnerait 200 000 versus quelqu'un qui gagne 50 000 qui donnerait un revenu familial de 100 000. C'est vraiment totalement deux mondes différents auxquels il faudrait traiter au fond de différentes façons. Donc ça devrait être deux solutions à ce moment-là différentes.
Je vous ai lu, Endo, je vous ai lu sur Facebook féliciter un député solidaire qui a décidé de verser son 500 $ à une banque alimentaire de son comté. Je parle d'un chèque personnel ici, là, pas de générosité déguisée en soutien à l'action bénévole payée par l'État. Est-ce que vous espérez que M. Aymon fasse pareil?
Mais, au fond, je répondrai pas à sa place, mais oui, on l'espère, au fond, effectivement. Puis j'invite aussi tous les gens, au fond, qui sont plus nantis à faire leurs dons, que ce soit pour une banque alimentaire ou pour la communauté en général, pour les organismes dans le besoin, parce qu'on le sait tous, c'est pas un secret de polichinelle que les organismes sont vraiment sous-financés. Donc, pour les gens qui peuvent se le permettre, au fond, de donner ce 500-là ou même la moitié, ce serait une bonne chose, effectivement, pour pouvoir redonner au suivant.
Votre clientèle, Ando, qui ne l'avait pas facile, là encore moins facile, avec le prix exorbitant du panier d'épicerie, vous le réalisez au Centre d'action bénévole, les demandes d'aide alimentaire sont en croissance?
Oui, tout à fait. À ce niveau-là, c'est vraiment fortement en croissance. On parle de plus de 160 personnes qui viennent cogner à nos portes à chaque semaine. Auparavant, on avait entre 100 et 110 personnes, donc on parle au fond de ménages, là, donc d'individus, donc ce qui est vraiment énorme. Puis l'autre chose qu'on voulait mentionner aussi, c'est à ce niveau-là, au niveau de l'inflation, c'est que au fond, on reçoit de nos fournisseurs, des épiciers, au fond, qui nous donnent des denrées, de restants d'invendus, mais vu que sur les tablettes, il y a moins de denrées, donc on reçoit aussi moins de choses de leur part, ce qui veut dire qu'on donne moins à notre clientèle, ce qui veut dire que la clientèle devra aussi s'acheter des choses à ce niveau-là, et d'autant plus que j'avais mentionné au début qu'il y a des gens, au fond, qui sont sur l'aide sociale, donc la sécurité revenue, donc c'est plus difficile aussi à leur niveau, là, à ce niveau-là.
Merci d'être là pour aider ce monde-là, Ando Andrianadi du Centre d'action bénévole du Bas Richelieu. Bon après-midi.
Merci.
Merci. Gilles-Émile Laflamme dirige le groupe d'entraide de Sorel-Tracy, le geste qui reçoit comme le cap des gens qui ont toutes les misères du monde à joindre les deux bouts. Bonjour, Gilles-Émile.
Bonjour, M. Sylvain.
Cette poussée inflationniste, est-ce qu'elle a changé le visage de la pauvreté? Est-ce que votre clientèle s'est agrandie d'hommes et de femmes que vous aviez moins l'habitude de voir? Je pense, par exemple, là, aux bas salariés.
Bien, effectivement, tu sais, je suis d'accord de dire que l'inflation fait mal et touche même tout le monde. Mais par contre, elle ne va pas tuer ceux qui sont bien nantis, qui vont continuer eux autres d'acheter leur piment rouge, leur filet mignon, complètement nos usagers. Des banques alimentaires qui sont à une paye de la faillite. Faut le comprendre, faut le vivre en même temps quand tu fais face à ces gens-là tous les jours qui se demandent est-ce qu'ils vont être en mesure de nourrir leur famille convenablement, tu sais? Est-ce qu'ils vont être obligés d'acheter du lait en poudre pour nourrir leurs enfants? Devront-ils acheter de l'eau dans leur soupe éventuellement pour nourrir, agrandir la famille à travers tout ça? Donc, oui, il y a une croissance. D'autant plus, la semaine dernière, on était avec, je fais partie du comité des membres de Moisson Rive-Sud. Et puis, la plupart des organismes sur la Montérégie disaient qu'il y avait une croissance depuis un mois de 25 % et plus là, de demandes d'aide. Donc, oui, Effectivement, il y a un grave problème en ce moment là, que ces gens-là vivent, d'autant plus avec cette petite somme-là qui va de montant de 500 $. Tu sais. Je pense que les choses auraient pu être faites autrement là, par rapport à ce don-là, on peut dire quelque part, qui était fait du gouvernement. Est-ce que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus équitable? Je crois que oui.
Il y a bien des retraités qui doivent en arracher aussi. Celles et ceux là, qui ne vivent que de leur pension de vieillesse et de leur rente du Québec, ils vivent pas grassement, là.
D'autant plus, eux autres aussi sont frappés. T'sais, on parle des fragilisés, mais ces personnes aînées font partie des gens fragilisés. C'est pas juste quelqu'un qui est à faible revenu ou quelqu'un qui est sur l'aide sociale, mais aussi ces gens-là qui font partie de la communauté et puis qui sont affectés justement par ce qui se passe. L'inflation, les logements, l'essence, la nourriture, l'électricité. Fait que tous vont y écoper par rapport à tout ça. Là.
Vous êtes un homme d'espérance et de foi, Gilles Émile. Vous croyez qu'on va vivre des jours meilleurs? Comment les construire, ces jours meilleurs? Parce qu'il faudra certainement que chacun y mette du sien, prenne part au chantier.
Ben écoutez, on n'est pas, c'est pas nous qui avons la tête, je dirais, quelque part, là, de mener toute la barque ou quoi que ce soit, mais en même temps, je trouve qu'on est quand même, malgré la situation qu'on vit, moi, je constate que quand même, on est en mesure encore de nourrir toutes ces familles-là. Il y a une abondance qui rentre. Il y a quand même, tu sais, malgré le gouvernement apporte cet appui-là, mais je pense qu'aussi au niveau du communautaire, il y a un fossé quand même entre le fonctionnaire et le communautaire. Je trouve que le communautaire se tient fort. Moi, je regarde avec Moisson, avec Groupe Action, qui sont nos fournisseurs généreux et qui se démènent justement là, pour être capables là, qu'on puisse avoir des avivages qui s'en viennent au bout de la trente pour nourrir nos gens, puis qu'à chaque semaine, on est capable de répondre à un besoin. Ben, je dis bravo à tout ça. Là. Mais je pense qu'il y a une sensibilité. Les gens sont quand même sensibilisés à tout ce qui se passe en ce moment, d'autant plus qu'on voit avec l'inflation qui est là. Donc, je pense qu'il y a quand même... Nous, on le voit aussi par des dons qui rentrent aussi. C'est-à-dire, je pense que les gens sont cheap et ils viennent en aide justement à ces familles-là. Je crois qu'il va y avoir quand même une relève à travers tout ça. Est-ce que les jours vont être meilleurs? C'est-à-dire, c'est ça qu'on regarde, ce qui se passe mondialement en ce moment au niveau de l'économie. Le portrait n'est pas beau, mais est-ce que ça va changer? Dieu seul le sait, je dirais quelque part. Maintenant, nous, il faut continuer à faire notre travail, puis il faut faire un mille de plus, puis faut se dépasser aussi à travers tout ça pour être capable de justement être capable de répondre aux besoins des ceux qui sont fragilisés.
Gilles-Émile Laflamme, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, Gilles-Émile. Sylvain Dupuis est maire de Saint-Ours et préfet de la MRC de Pierre-de-Sorel. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Sylvain.
La poussée inflationniste, elle épargne pas les municipalités. Les municipalités doivent payer plus cher leurs biens et services.
Absolument. On le voit là, dans les prix à la consommation. Là. Nous, on achète, que ce soit des produits pour nos bâtiments et tout. Et même les rénovations, le prix a tendance à vouloir monter. Là.
Il y a des initiatives que prend Saint-Ours pour aider sa population à composer avec l'inflation?
Ben, écoutez, déjà, nous, on a pris, au niveau municipal, on a ajusté la méthode de paiement. On a essayé d'être le plus raisonnable possible au niveau de la taxation, des services. Nous, on essaie de charger le juste prix, puis pas aller chercher un profit sur les frais là, inhérents là, quand tu construis une maison, quand tu fais une fermeture d'eau. Donc, on essaie d'être ajusté sur le prix réel. Donc, ça évite qu'on fasse un profit sur notre citoyen. Donc, c'est là-dessus que nous, on mise. Puis, évidemment, ben quand on est capable de le faire de façon, là, sous forme d'un service municipal, ben on le fait, là.
En même temps que j'ai cette conversation avec vous, on m'écrit que votre conseil s'est voté une hausse très importante de rétribution. Est-ce que c'est vrai?
Bien, toute chose étant relative. Nous, on a augmenté, là, donc évidemment, on a augmenté de 35 %, mais il faut savoir que...
Oh! 2000... Et vous savez le taux, faire face à l'inflation?
Oui, mais ça n'a pas rapport. Il nous faut mettre des contextes. Souvent, le monde, ils prennent ça hors contexte. Nous, depuis 2009, on n'avait pas touché au salaire, c'était juste l'inflation. On a vu, il y a eu des mesures gouvernementales, on a eu la charge de travail aussi qui a augmenté. On a vu, quand on se compare avec d'autres municipalités, on est encore en dessous des municipalités. Donc, c'est juste un coup de barre, parce que nous, on ne l'avait jamais fait. Donc, en réalité, le problème avec ça, quand tu le fais jamais, mais quand tu le fais pour vrai, mais tu le fais à 35 %. Évidemment, il faut savoir que c'est 35 % d'à peu près rien. Là. Ce n'est pas des salaires de 100 000 $ par année qu'on se donne. Fait que, c'est sûr que ça a un impact. Mais après ça, c'est l'IPC, comme l'ensemble des employés municipaux.
Les deux unions municipales, l'UMQ et la FQM, ont réagi plutôt positivement au récent budget Girard, notamment l'ajout de 247 millions au programme Accès Logis et à la bonification là, de 100 millions du programme d'habitation abordable du Québec, alors que le FRAPRU paraît trouver ces sommes-là plutôt ridicules. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'UMQ et la FQM ou avec le FRAPRU?
Ben, tu sais, pour avoir côtoyé dans ma jeune enfance, ça ferait plus. Habituellement, ils sont rarement super enjoués avec les mesures gouvernementales. Ils en veulent toujours plus, puis c'est à leur honneur, là. Je veux dire, ça fait partie de leur revendication. Évidemment, c'est toujours la poule et l'œuf. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on en veut plus? Je pense qu'aussi, il y a une question de gestion budgétaire de l'ensemble pour savoir comment ça fonctionne un gouvernement versus même une ville. Tu sais, à un moment donné, tu peux plus aller plus loin dans ce domaine-là parce que tu penses à l'autre domaine. Donc, évidemment, des efforts, est-ce qu'on veut, on en veut plus? C'est clair qu'on en veut toujours plus. Mais je me mets à la place du gouvernement. Il y a quand même un échéancier budgétaire à respecter. Donc, c'est sûr que moi, je me joins que je me dis, par ces mesures-là, au moins, on part de ça. Puis après ça, mais on peut revendiquer pour en avoir plus puis améliorer des conditions de différents sujets reliés à nos citoyens.
Là. Vous êtes aussi, Sylvain Dupuis, directeur du Centre de crise et de prévention du suicide de la Traversée. Les problèmes d'argent, le fait de ne plus arriver à joindre les deux bouts, c'est très anxiogène. Est-ce que vous avez des appels de gens découragés de ne plus être capables de nourrir convenablement leur famille?
Ben sincèrement, on en a, mais évidemment, c'est souvent pas la cause principale. C'est comme les causes qui s'ajoutent à d'autres causes. Souvent parce que tu t'es pas dans une condition pour travailler, mais là, évidemment, tu tombes dans une espèce de tourbillon là de difficultés. Puis c'est là que des organismes comme la Traversée peuvent les aider. Mais évidemment, dans la région de Sorel-Tracy, on est chanceux. On a beaucoup d'organismes communautaires qui peuvent soutenir. Donc, faut pas rester seul chez soi devant cette contrainte-là. On a plein d'organismes prêts à aider, que ce soit au niveau de l'anxiété, au niveau de l'aide alimentaire, au niveau même d'apprendre à gérer le budget qu'on a. Puis surtout, des fois aussi, ce qui arrive, ce qu'on se constate, c'est que les gens, des fois, ils n'ont plus de carte d'assurance maladie, ils n'ont peut-être même plus d'argent minimal prévu par le gouvernement. Donc, tu sais, les organismes au niveau la région de Sorel-Tracy sont là pour vous aider, pour vous accompagner là-dessus.
Merci beaucoup, Sylvain Dupuis.
Un plaisir.
Merci, salut. Après la pause, le dernier segment de cette émission consacrée au coût de la vie, on le passe avec Serge Péloquin, Louis Plamondon et Jean-Bernard Raymond.
Le mois de mars, c'est aussi l'arrivée du printemps et qui dit printemps dit changement. Du 24 février au 30 mars, rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour la promotion des électroménagers fiables de Maytag. L'équipe dynamique de Meubles André Beaulieu saura vous accompagner dans le choix de nouveaux électroménagers. Profitez de rabais additionnels allant jusqu'à 300 $ sur la marchandise sélectionnée. Parce qu'avec Maytag, la fiabilité dure. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
Vous êtes victime d'un accident de la route, du travail, d'une erreur médicale ou d'un problème de relation de travail? Chez Mellon Mellon Avocats et CRHA, nous pouvons vous aider à obtenir justice ou dédommagement. Spécialisés dans le droit du travail, de la santé et de l'assurance invalidité privée depuis 33 ans, Mellon Mellon est à votre service avec son équipe multidisciplinaire d'avocats, CRHA, pharmaciennes, infirmières et psychologues. Informez-vous au 450-743-9987 ou en ligne au www.mellonmellon.com.
La Tribune, une présentation de Lucier, Meubles André Beaulieu et Mellon Mellon, cabinet médico-légal.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, bonjour.
Bonjour, M. Rochon.
Je parlais plutôt de deux palmarès dans lesquels Sorel-Tracy se démarque pour sa qualité de vie et son coût de la vie. Un logement avec une chambre pour 550 $ par mois, une maison avec trois chambres pour moins de 200 000. Est-ce que ça reflète la réalité, les chiffres qu'on retrouve dans ces palmarès-là?
Oui, dans plusieurs situations, dans plusieurs cas, oui, c'est juste et précis. Parce que depuis quand même plusieurs années, je le mentionnais sur plusieurs tribunes, que Sorel-Tracy, c'était possible pour l'accès à une première propriété. On avait près de 2900 belles petites maisons, des maisons d'ouvriers, évaluées à moins de 90 000 $. Donc, naturellement, si on fait le calcul et les ratios pour les coûts par mois, ben faites le calcul et puis ça donne la réponse quand même assez juste. Mais justement, j'aimerais avoir une pensée là, pour les gens en revenus modestes qui sont pris là, actuellement avec cette pression dictée par l'économie actuelle. Puis surtout avec l'augmentation des biens de consommation, on le constate à l'épicerie, puis aussi les biens et les services essentiels comme l'essence, l'électricité, l'assurance et bien d'autres. On l'a entendu là, précédemment avec vos invités, tout le monde écope présentement, les citoyens, les organismes à but non lucratif, l'entreprise privée, les autres organismes publics, que ce soit l'éducation, la santé. Il va venir un moment donné qu'il y a quelqu'un qui va devoir payer la facture. Alors présentement, on est dans un cercle vicieux. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Ouais, la ville doit elle-même, on en parlait avec Sylvain Dupuis, là, doit elle-même payer plus cher ses biens et ses services. Qu'est-ce qu'on fait dans pareil contexte pour ne pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens? On repousse des projets, on opère des coupures. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, on n'y échappe pas, comme vous l'aviez dit, M. Rochon. Nous avons aussi des hausses là, importantes à différents niveaux. À titre d'exemple, les carburants, comme tout le monde, pour nos véhicules, que ce soit les produits chimiques pour nos usines de traitement des eaux, les assurances, aussi les collectes de matières résiduelles, pour ne nommer que ceux-là. Donc, ce qui arrive dans le moment, c'est que on trouve des façons, oui, de bien gérer, de moduler, et c'est là que on adapte un budget. On a adapté le budget 2021 pour fonctionner en 2022. Mais ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va revoir avant 2023, revoir nos priorités. Le budget 2023, bon, on va tout simplement là, avoir une revue sur les dépenses et le revenu. Puis la ville, ben, elle va se consacrer à ses missions premières au départ et essentielles avant de commencer à faire des dépenses qu'on pourrait qualifier de non prioritaires.
Est-ce que le complexe aquatique, je donne un exemple bien précis, là, est-ce que le complexe aquatique risque de devoir attendre parce que le coût des matériaux est devenu inabordable?
Ça, la réponse, on l'aura à l'instant où les appels d'offres vont sortir. On ne le sait pas présentement. On fait des calculs. Là, vous faites allusion à la surchauffe du marché. Alors ça, c'est incontrôlable actuellement. Mais par contre, on le sait très bien qu'on a quand même une année, une bonne année pour toute l'ingénierie, plein de vie, mécanique, électrique et tout ça. Donc, on ose espérer que le marché va se stabiliser, qu'on pourrait éventuellement connaître aussi une déflation. Parce que ça existe aussi, ces trucs-là. Alors, c'est là-dessus qu'on doit miser. Mais entre-temps, ce qui est rassurant, vous savez, on s'est mis sur pied un bon système de transport collectif là, qui va être actif le 4 avril prochain, très bientôt. Ça veut dire que les gens qui présentement pensent à se départir d'une voiture, chez nous, à Sorel-Tracy, mais vous allez avoir un système de transport collectif qui va être capable de suivre sur l'ensemble de notre territoire à prix moindre. Ensuite, ça, vous l'aviez remarqué, au niveau des matières résiduelles, il y a des municipalités, mes collègues de la MRC, qui ont refilé une facture de 180 $ par porte. Nous, on a pu le maintenir à 135 pour l'année actuelle. Pour toutes sortes de raisons, c'est qu'on avait quand même des sommes en surplus. D'où venaient ces sommes-là en surplus? Toutes les enlieues de taxes et qu'on a connu toute la croissance de la vente des bâtiments, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. On avait des projections, nous, de près de 1,8 million. Et puis, ça nous a emmené dans nos coffres un montant réel de 4,8 millions. Ça veut dire, c'est des réponses à donner. Comment fait-on pour s'en sortir? Puis, mon style de gestion, ce sera toujours le même. Gérer en bon père de famille. Puis, on ne dépensera pas l'argent qu'on n'a pas. Puis, on fera des revues sur nos différents projets pour les prioriser.
Merci beaucoup, Serge Péloquin, de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Au revoir.
Merci, au revoir. Louis Plamondon, bon midi.
Oui, bon midi.
Vous êtes reconnu pour votre proximité du monde, un député de terrain que toutes ces années au Parlement n'ont pas déconnecté de la vraie vie. C'est quoi la vraie vie des vôtres dans Bécancour, Nicolet, Sorel, dans le contexte de cette poussée inflationniste? Est-ce que vous sentez que le monde a de la misère à arriver, les gens aux revenus modestes, là?
Ah, c'est là. Vous touchez le point, là. Les gens aux revenus modestes, là, c'est... sont touchés là, directement. Et ils m'en parlent là, tout le temps quand on les rencontre. Est-ce que ça va arrêter d'augmenter? Comment est-ce que je vais faire avec mon nouveau coût du loyer, etc.? Alors ça, c'est... Mais en même temps que ce phénomène-là arrive, on sait une chose, c'est que bien des choses qu'on peut faire parce que c'est international. Ça veut dire que ça vient d'ailleurs que de chez nous, ces augmentations-là. Autrement dit, là, les chaînes d'approvisionnement là, qui nous amènent le bois, qui nous amènent le manger et tout ça, ben on peut pas dire là, à Sorel, là, les tomates, là, on va baisser ça. Mais non, parce que la chaîne d'approvisionnement au métro, ça vient souvent, ça vient de l'extérieur. Alors là, on est très limité. Par exemple, je parlais avec des gens de la construction. Le plancher de bois. Plancher qu'on appelle d'ingénierie. Ça vous d'où ça vient? En très, très, très grande partie, ça vient de l'Ukraine, imaginez. Fait qu'ils sont pas dans les conditions pour nous approvisionner à bas prix de cet ainsi.
Ça
là.
Va mal à la chape, ouais, ouais, ouais.
Et puis aussi, mais à long terme, là, si on parle à long terme, ben, c'est sûr que plus on ira vers une transition énergétique, parce que ça, on est capable au Québec, avec l'hydro, de travailler très fort là-dessus, plus on pourra contrôler beaucoup de prix qui ont un rapport direct avec ça.
Okay.
Alors ça, c'est à long terme. Mais à court terme, là, si on veut agir directement, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus, non pas par le gouvernement du Québec a choisi un chèque, c'est leur point de vue. Moi, je prétends que ça serait plutôt le crédit de TPS là, qui est donné à 3 fois par année. Là, mais donnons-le, parce que ça va direct aux gens les plus mal pris. Là. Donnons-le 6 fois par année, augmentons-le. Là, on va toucher vraiment des gens qui sont dans le besoin.
Vous vous êtes battu avec le Bloc pour que la pension de vieillesse soit rehaussée. Quelqu'un là qui n'a que sa pension, sa régie des rentes du Québec, qui n'a pas d'argent de côté, qui n'a pas de maison, il n'y aura pas une retraite dorée, là, même non, peut-être pas confortable.
L'alimentation de la TPS, parce qu'il la reçoit, lui-là, là, de 6 fois par année au lieu de 3 fois, par exemple, ce serait un bon moyen de donner un petit montant à tous les 2 mois, là, qui serait justement proportionnel à ses revenus. Mais au sujet de la pension de vieillesse, c'est dramatique que le gouvernement, pour la première fois, s'est attaqué à l'universalité. Il y a du ceux de 65 ans à 75, rien. 75 ans et plus, vous aurez un montant supplémentaire. Puis là, ça prête, paraît-il, on va voir le budget en avril, eh bien, de 10% d'augmentation de base pour ceux de 75 ans et plus. Mais rappelons-nous que ceux de 75 ans et plus, dans une proportion de 72%, je crois, demeurent dans des RPA, résidences personnes âgées, ou des CHSLD. Donc, quand il y a une augmentation, c'est souvent le propriétaire qui prend avec une augmentation de loyer qui reçoit l'alimentation, dans le fond. Tandis que ceux de 65 à 75, eux, vivent dans leur maison ou à loyer. Et donc, quand ils reçoivent l'argent, ils la dépensent dans l'économie régionale, ce qui fait en sorte que le gouvernement tout de suite en récupère une partie. Donc, c'est pas normal qu'on ait séparé ça comme cela.
Okay.
Là, on se bat, nous, pour cela, et j'espère que pour le prochain budget, que tout le monde va être inclus pour qu'il y ait une modification, parce que les grands oubliés de la pandémie, ce sont les aînés.
Louis Plamondon, je dois vous remercier. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour vous entretenir avec nous.
C'est un plaisir.
Merci.
Bonne journée.
Pour terminer cette émission de la Tribune sur le coût de la vie, on rejoint Jean-Bernard Raymond à l'Assemblée nationale. Bonjour Jean-Bernard Raymond.
Bonjour M. Rochon.
Les Québécois connaissent en ce moment le plus haut taux d'inflation depuis 1991. L'indicateur de l'inflation le plus utilisé, c'est l'indice des prix à la consommation. Il est en hausse de 5,7% sur 12 mois. Est-ce que vous voyez à votre bureau de Sorel de plus en plus de monde qui a du mal à arriver?
Ah oui, tout à fait. De nombreux appels, de nombreux citoyens qui nous contactent. Et je dois le dire, là, de tout acabit, là. Des gens à bas revenus, mais également la classe moyenne qui est impactée, parce que c'est important de dire que tout le monde est impacté par l'inflation. Hein. La hausse des prix des aliments, de l'essence, entre autres, qui vient faire une ponction directe là, dans le portefeuille des citoyens de notre région.
Quelles mesures votre gouvernement peut-il prendre pour combattre l'inflation? Est-ce qu'il a, le gouvernement du Québec, un coffre d'outils ou c'est la Banque du Canada seule qui a ce coffre d'outils?
Ben, vous avez vu juste, pour compenser directement le mouvement inflationniste, c'est la Banque du Canada qui a les leviers nécessaires en augmentant de façon très légère, hein, comme ils font actuellement, les taux d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on se tient dans une fourchette environ habituellement historique entre 1 et 3 % Mais là, écoutez, on est dans une situation particulière. Au gouvernement du Québec, vous en avez sûrement parlé dans votre émission, le ministre Girard, mon collègue, a mis plusieurs mesures en place, pour venir en aide aux citoyens du Québec, entre autres le montant de 500 $ qui est remis à tous les Québécois qui ont un revenu de moins de 100 000 $.
Bon, ça, évidemment, on en a beaucoup parlé dans l'émission, ça ne combat pas l'inflation, ça aide à y faire face. Est-ce que c'était une bonne idée de l'étendre à tout le monde? Il y en a qui ben, trouvent que non. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile pour vous de dire que c'était pas une bonne idée, remarquez.
Ben, écoutez, c'est une mesure qui est ponctuelle, qui a un impact immédiat, parce que c'est important. Faut comprendre que la classe moyenne est aussi impactée par l'inflation. Des gens qui paient beaucoup d'impôts, qui sont en droit de recevoir un soutien ponctuel. Et ceci dit, d'autre part, c'est certain qu'il faut aider les personnes qui ont un plus bas revenu. Et on l'a fait depuis le début de notre mandat. Par exemple, en décembre dernier, le gouvernement a octroyé un montant de 400 $ aux couples à bas revenu, un 800 $ additionnel pour un couple de personnes âgées. Donc, et eux aussi ont droit aux 500 $ du budget actuel. Ça veut dire qu'un couple de Sorel, là, de la grande région de Sorel-Tracy, un couple de personnes âgées à bas revenu aura eu 2 200 $ pour faire face à l'inflation. C'est une mesure ponctuelle pour que les gens, l'essence, on la paie tout de suite à la station service, l'épicerie, on la paie à chaque semaine de plus en plus cher. Alors, c'était pour venir donner un coup de main à l'ensemble, à 6,4 millions de Québécois, à beaucoup de citoyens dans la région. Tu sais, vous savez, Sylvain, une infirmière monoparentale qui gagne quelque chose comme 70 000 $ par année là, est impactée par l'inflation. Les couples le sont également. Alors, c'est important pour nous d'agir rapidement. Et la mesure du ministre Girard, c'est la mesure qui est en étant en mesure de mettre en place le plus rapidement possible.
Il y a des députés, Ando Andrianadi parlait de Sol Zanetti là, de Québec solidaire, qui ont décidé qu'ils allaient remettre leur crédit d'impôt de 500 $ à une banque alimentaire de leur quartier. Là, pas un sable, là, un chèque personnel. Est-ce que, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que ça vous donne envie de faire pareil?
Ben, je salue la créativité de mes amis du Centre d'action bénévole. En toute transparence, je ne parlerai pas pour les collègues députés des autres formations politiques, mais dans mon cas, je n'ai pas accès, je n'ai pas droit aux 500 $. C'est un montant que les citoyens vont pouvoir utiliser de la façon qui leur convienne le mieux, parce que dans le fond, c'est ça l'idée, là, plutôt que de mettre un paquet de conditions, de paramètres, de mesures, ben, on laisse les gens choisir ce qu'ils veulent faire avec leur argent à l'endroit qui va être le plus efficace pour eux. Puis c'est un peu dans l'ADN de notre formation politique, hein, remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond, de votre participation à la Tribune.
C'est un plaisir. À très
Merci,
bientôt.
À bientôt. Merci à l'ensemble de mes invités. Ando Andrianadi, du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, Julie Courchaine, du domaine Coquelicot, Claudine Couture-Trudel, de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-de-Sorel, Dominique Gosselin, d'Action Logement Pierre-de-Sorel, Gilles-Émile Laflamme, du groupe d'entraide de Sorel-Tracy, Roger Lafrance, de la CEF Montérégie-Est, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Louis Plamondon, député fédéral, et Jean-Pierre Poulin, fiscaliste chez Raymond Grant. Raymond Chabot, Grant Thornton. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine pour une autre édition de la Tribune. Bye-bye.